Tournons ensemble dans l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, à la page 229 dans notre Bible. L'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, les versets 5 à 11 seront notre lecture principale ce matin. Lecture que nous ferons après avoir prié. Prions d'abord ensemble notre Dieu. Quelle joie, Seigneur, quelle joie de pouvoir se mettre à l'écoute de ta parole. Quel privilège! Tu nous donnes d'aimer ta parole, de la recevoir avec foi, avec des cœurs qui veulent s'y plier. Quelle grâce tu nous fais en nous donnant ta parole, en nous persuadant de la chérir et de façonner notre vie selon ta parole. Jamais nous ne pourrons assez te louer et te célébrer de ce cadeau. Nous sommes conscients que nous avons besoin du secours de l'Esprit-Saint pour qu'il vienne allumer en nous la lumière de ta vérité et procéder en nous à des transformations que lui seul peut accomplir pour que nous puissions vivre selon ta volonté. C'est pourquoi nous demandons ensemble ta lumière et ta grâce et ta bénédiction sur l'écoute de ta parole maintenant, qu'elle vienne toucher, rejoindre, transformer chaque personne ici présente. Nous t'en supplions ensemble, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Écoutons la lecture de Colossiens 3, les versets 5 à 11. « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Si c'est votre habitude de consulter les avis de décès pour voir s'il y a quelqu'un que vous connaissiez qui est décédé, quelle serait votre réaction si un jour, en consultant les avis de décès, vous apprenez que vous êtes décédé? Vous seriez plutôt surpris, probablement, et mal à l'aise, et vous vous empresseriez de corriger la situation. Vous n'êtes pas mort, vous êtes bel et bien vivant. En Colossiens 3, 3, l'apôtre Paul avait dit aux Colossiens et à tout chrétien, « Vous êtes mort ». C'était comme un avis de décès qui nous concerne tous si nous sommes chrétiens. Il avait dit aussi, « Vous êtes ressuscité ». C'est comme un avis de résurrection pour ceux qui sont chrétiens, aussi bien les Colossiens que pour nous-mêmes. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Et dans les versets 5 à 11, maintenant, en Colossiens 3, l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, nous enseigne que puisque nous sommes morts et ressuscités, eh bien, il faut en tenir compte dans notre vie concrète, dans notre conduite quotidienne. Nous devons prendre conscience du fait que puisque nous sommes morts au péché, notre ancienne vie est finie, elle est terminée. Sa carrière a pris fin. Une fois que nous prenons conscience de ça, que nous sommes morts au péché, que la dette a été payée, que le compte est réglé, que la loi est satisfaite, eh bien, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec notre ancienne vie. Et j'aimerais, par ces mots et les deux, trois prochains paragraphes, essayer de mettre ces versets 5 à 11 dans le contexte approprié pour que nous puissions bien saisir l'importance et la puissance de ces paroles de l'apôtre Paul pour nous aider dans notre sanctification de chaque jour. Une illustration peut nous aider à comprendre. On pourrait dire que notre biographie a été écrite en deux volumes. Il y a le tome 1 qui raconte l'histoire du vieil homme que j'étais avant ma conversion. Puis il y a le tome 2 qui raconte ma vie nouvelle depuis que j'ai été recréé par le Seigneur Jésus-Christ. Le tome 1 de ma vie s'achève par la condamnation à mort du vieil homme. J'étais pécheur, je méritais la mort, je suis mort dans l'union avec Jésus-Christ qui est mon substitut. Je suis devenu un avec lui. Le tome 1 est fermé. Maintenant, le tome 2 de ma biographie s'ouvre sur ma résurrection. Mon ancienne vie étant finie, une nouvelle vie a commencé. Je dois reconnaître ces vérités-là, en prendre conscience, y réfléchir comme il faut, méditer cette triomphante victoire de Jésus-Christ en ma faveur et voir comment ceci peut s'appliquer à mon quotidien. Le tome 1 est fermé. Ma vie maintenant, c'est le tome 2. Il est absurde que je retourne au tome 1. Un chrétien né de nouveau peut-il vivre comme s'il est encore dans ses péchés? Ça peut arriver. Ce n'est pas impossible. Mais ça ne devrait pas. Nous avons besoin de nous rappeler constamment ce que nous sommes en Jésus-Christ. Paul ici n'affirme pas l'impossibilité de pécher pour un chrétien, mais il affirme l'incongruité flagrante d'une telle conduite. Il nous enseigne qu'être mort au péché et vivre dans le péché sont deux situations qui sont incompatibles. Donc, nous devons comprendre comme il faut cette réalité nouvelle à cause de l'œuvre gracieuse de Jésus-Christ et ça va tout orienter d'une façon différente notre vie de sanctification. Nos esprits doivent s'approprier le fait de notre mort et de notre résurrection avec Jésus-Christ et leur signification au point où nous ne voulions plus retourner en arrière au tome 1. Un chrétien né de nouveau ne devrait plus penser vouloir retourner à sa vie d'autrefois. Pas plus qu'un prisonnier qui a été libéré de la prison ne devrait penser et espérer vouloir retourner dans sa cellule de prison. Ça, c'est comme le grand contexte dans lequel les versets 5 à 11 sont placés devant nous ce matin. Voyons d'une manière pratique comment ce principe d'union avec Jésus-Christ mort et ressuscité peut être appliqué dans notre quotidien. Commençons avec le verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Nous avons ici un autre « donc ». On en a vu plusieurs depuis Colossiens 1. Vous êtes morts, donc faites mourir. Coudonc, est-ce que Paul se contredit? Non, il ne se contredit pas. S'ils sont morts, pourquoi doivent-ils faire mourir leur nature terrestre? C'est parce qu'aussi longtemps qu'ils sont dans ce corps ici-bas, sur la terre maintenant, il y a une différence en quelque sorte entre leur état et leur condition. Leur état, c'est que les chrétiens, ils sont justifiés pour toujours, ils sont purifiés parfaitement. En Éphésiens, Paul dit, ils sont assis déjà dans les lieux célestes, c'est merveilleux. Mais leur condition, c'est qu'ils sont encore dans ce corps, cette nature terrestre qui est là, et ils doivent expérimenter ce qu'ils sont en réalité. L'indicatif « vous êtes mort », c'est ce qui sous-tend l'exhortation et la motivation. Faites mourir. Toute notre vie, le processus graduel de la sanctification, c'est justement d'être de plus en plus ce que nous sommes en Jésus-Christ, parce que nous sommes morts et ressuscités avec lui. Cette nature terrestre qu'il faut faire mourir, en quoi consiste-t-elle? L'apôtre Paul, dans les versets qui suivent, nous donne plusieurs exemples. Il ne dit pas tout, mais il donne plusieurs exemples. D'abord, faites mourir l'inconduite. Le mot traduit par inconduite, ici, est traduit dans beaucoup de versions par débauche, ce qui est une bonne traduction, ça veut dire la même chose. Le mot grec est le mot porneia, d'où vient notre mot pornographie, un mot qu'on connaît bien. Donc, ce mot grec est le mot le plus communément utilisé dans la langue grecque pour décrire toutes les formes de relations sexuelles en dehors du mariage entre un homme et une femme. L'appel urgent à la pureté sexuelle que l'apôtre Paul adresse ici et ailleurs dans ses épîtres est tout aussi important et urgent pour nous aujourd'hui, au 21e siècle. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour se rendre compte que notre culture est pornographique. On pourrait dire que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de pornographie comme il y en a aujourd'hui. Les générations précédentes devaient la chercher, mais aujourd'hui, elle est partout. Elle se fait inquisitrice, la pornographie. Elle a une forte emprise sur ceux qui s'y adonnent et elle fait d'immenses épaves dans son sillage. Des avocats spécialisés dans le domaine du divorce ont signalé récemment que la pornographie est devenue la cause de 2/3 des divorces. Notre société est une société de plus en plus pornographique. Et quelqu'un a remarqué qu'en 2020, en une soirée de télévision, nous voyons plus de débauches que nos grands-parents dans toute leur vie entière. Pour les chrétiens, ça signifie que nous sommes dans une terrible zone de guerre et que si nous ne prenons pas cette guerre très au sérieux, nous, nos mariages et nos familles, vont se faire détruire. Garder le contrôle de notre corps, de nos pensées, n'est pas une mince affaire dans notre monde où il y a tant de conduites qui poussent vers la débauche. Faites mourir l'inconduite, dit l'apôtre Paul. Faites mourir la débauche. Mettez ça à mort. Ce sont des mots très forts. Nous devons éliminer complètement de notre vie l'inconduite. La forme du verbe indique que l'action doit être décisive, avec un sens d'urgence. Ce n'est pas optionnel. Hébreux 13:4, Dieu jugera les débauchés. 1 Corinthiens 6:18, fuyez la débauche. Paul continue en disant, faites mourir l'impureté. Et le mot qu'il utilise vise d'abord nos pensées. Ces pensées, bien sûr, qui peuvent se transformé en intention, même en action. Nous avons un cantique ici que nous chantons parfois. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Paul écrit aux Thessaloniciens, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est sûr que parler aujourd'hui contre l'impureté, contre les pensées impures, les gens vont nous traiter de brontosaures morales, n'est-ce pas ça? Mais c'est super important si on est un enfant de Dieu. C'est ce que Dieu demande de nous, c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui est bon, c'est ce qui nous fait ressembler à Dieu, de chercher la pureté. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. L'apôtre Paul donc nous dit, faites mourir l'impureté. Puis il ajoute, faites mourir les passions. Il a à l'esprit les passions incontrôlées de toutes sortes. Et on parle beaucoup à notre époque des addictions à ceci, et à cela où on est esclave de passions qu'on ne peut plus contrôler. En Romains 1, l'apôtre Paul utilise le même mot pour parler de l'homosexualité. En 1 Thessaloniciens 4, il dit que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Se livrer à une convoitise passionnée. C'est ce que font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons Dieu, nous sommes appelés à une autre façon de vivre. Faites mourir les passions. Paul poursuit, « Faites mourir les mauvais désirs. » Il y a toutes sortes de désirs dans nos vies, il y a des bons désirs. Jésus, par exemple, dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » C'est un bon désir. L'apôtre Paul dit, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » C'est un bon désir. Mais il y a des mauvais désirs, comme le désir, par exemple, de se venger. C'est un mauvais désir. Ecclésiaste 8, 11 dit, « Le cœur des humains, au-dedans d'eux, est rempli du désir de faire le mal. » Autre Pierre parle du désir d'impureté et de souillure. Paul écrit à Timothée, ce passage que vous connaissez bien, « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Donc, faites mourir les mauvais désirs, dit Paul. Puis, il ajoute, « Faites mourir la cupidité qui est une idolâtrie. » La cupidité, c'est le désir de toujours vouloir plus. Plus de quoi? Plus de tout, surtout de ce que nous ne sommes pas supposés avoir. Le désir avide de posséder plus et d'avoir plus est la cause de tellement de soucis, de détresse, de conflits, de troubles de toutes sortes. Être cupide, c'est mépriser la valeur infinie de Dieu, c'est refuser ce que Dieu nous donne, c'est vouloir plus, c'est mettre ce désir-là au-dessus de tout. Et c'est pourquoi Paul nous dit, faites mourir la cupidité. L'ordre est clair et solennel, faites mourir votre nature terrestre. Au verset 6, Paul nous donne une excellente raison de mettre à mort notre vieille nature terrestre. Il dit, c'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. La colère de Dieu vient. C'est comme une grosse pancarte que Dieu met devant nous et devant les êtres humains. La colère de Dieu vient. C'est une annonce miséricordieuse de Dieu pour nous pousser à mettre à mort notre vieille nature terrestre. Mais il y a beaucoup de gens, même dans les églises, qui ne croient pas que la colère de Dieu vient. En France, il y avait un écriteau sur lequel on pouvait lire « Terrain militaire, attention, danger, entrée interdite ». Quelqu'un s'est aventuré là, il a perdu la vie. Le CN, le Canadien national, ne cesse d'ajouter des pancartes qui disent « Si vous ne voulez pas y rester, éloignez-vous des voies ferrées ». Plusieurs ne tiennent pas compte de ces avertissements et périssent. La signalisation pour les motoneigistes est claire et nette. Ne vous aventurez pas sur ce cours d'eau. Mais des motoneigistes s'en foutent, s'aventurent sur les cours d'eau et périssent. La colère de Dieu vient, dit l'apôtre Paul, inspiré de Dieu. Elle est proche, nous en voyons toutes sortes d'exemples régulièrement, mais la colère ultimement du jugement dernier s'en vient. Dieu est le juge perpétuel du monde. Le péché, s'il n'est pas combattu, apporte toujours la colère de Dieu. Le trouble, le péché ne conduit jamais au bonheur, jamais. Au contraire, la colère de Dieu est certaine. Ses péchés, s'ils ne sont pas combattus et mis à mort, attirent le déplaisir de Dieu comme un aimant attire le fer. Verset 7, « Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, lorsque vous étiez dans le tome 1, vous viviez là. Nous marchions autrefois sur le chemin large et spacieux qui conduit à la perdition. Mais c'est fini ça, dit l'apôtre Paul. Nous avons encore des choses à mettre à mort, c'est sûr, oui, mais nous ne vivons plus dans ces désordres. Nous ne nous plaisons plus dans ce style de vie pécheur. » C'est un immense témoignage à l'efficacité de l'Évangile dans la vie des enfants de Dieu. Un puissant encouragement aussi pour chacun de nous à travailler et à achever la sanctification qui est commencée en nous. Par la grâce souveraine de Dieu, nous avons, en principe, renoncé à cette conduite. Vous marchiez autrefois. Pour nous, c'est du passé. Ce qui fait dire au pasteur Charles Spurgeon, les paroles suivantes, « Chrétien, mais qu'as-tu à faire avec le péché? Est-ce qu'il ne t'a pas encore coûté assez cher? Toi qui t'es fait brûler par le péché, vas-tu encore jouer avec son feu? Toi qui as déjà été pris dans les mâchoires du lion du péché, vas-tu encore te jeter dans sa fosse? N'en as-tu pas assez de ce vieux serpent? N'a-t-il pas déjà empoisonné tes veines et vas-tu encore t'offrir à lui? Ne sois pas si insensé. As-tu trouvé un bonheur solide et vrai et durable en péchant? Veux-tu te remettre les chaînes du péché? Non, sois libre, dit-il. Verset 8. Mais, maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Verset 7. C'était autrefois. Verset 8. C'est maintenant. Il y a un contraste, une différence. Ce maintenant est le résultat de la grâce bienveillante de Dieu dans nos vies, qui a apporté dans notre vie de merveilleux changements. Maintenant que nous sommes morts au péché et ressuscités avec le Christ Jésus, il y a des choses qui ne doivent plus se trouver dans nos vies, qu'il faut rejeter. Quand ces choses ont envie de monter, de surgir en nous, ce qui arrive, il faut les traiter comme un ennemi étranger qui n'a pas le droit d'être dans nos vies. Il faut les chasser au plus vite de notre cœur. Elles n'ont pas le droit d'être ici, encore moins de nous donner des ordres et de nous mener par le bout du nez. Il faut les chasser, les rejeter. Rejeter la colère, dit Paul. Le mot qu'il utilise parle d'une indignation subite, une rage soudaine, une fureur qui éclate. Et Paul nous dit, il faut rejeter ça comme on rejette un vieux vêtement, dont on se dépouille d'un vieux vêtement. Ça ne convient plus à un enfant de Dieu parce que Dieu veut que ses enfants exercent le beau fruit de l'esprit qu'a la maîtrise de soi. Rejeter l'animosité. La Bible n'est pas d'accord avec la pensée moderne que finalement c'est bon pour notre santé de laisser sortir tout ce que nous avons sur le cœur et se défouler de toutes les émotions qui grondent en nous. On entend souvent dire ça. Il faut que ça sorte de mon système. Que voulez-vous? La parole de Dieu a un avis différent et enseigne qu'il faut faire mourir cette animosité qui est là. Le livre des Proverbes dit « L'insensé est celui qui étale tous ses sentiments. » C'est l'insensé qui fait ça, qui laisse sortir de son système tout ce qui gronde en lui. Le chrétien qui est appelé à la sagesse, une autre façon de vivre, lui, il met à mort. Il rejette l'animosité. Rejeter la méchanceté, la malice, la disposition qui parfois est en nous de vouloir faire le mal aux autres. L'apôtre Pierre dit aussi en 1 Pierre 2, 1, « Rejetez toute méchanceté. » Rejetez la calomnie, dit Paul, les médisances, les paroles offensantes, malveillantes sur le compte du prochain, qui ne devraient plus exister, qui ne devraient plus sortir de notre bouche. Rejetez les paroles grossières qui sortiraient de votre bouche, les paroles sales, inappropriées, les paroles choquantes. Toutes ces choses, par la puissance du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, doivent être combattues quotidiennement. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous devons rejeter, mettre à mort les pousses et les repousses du péché qui sont là, qui veulent ressurgir. Et cette entreprise serait complètement impossible s'il n'y avait pas déjà en nous la vie que le Saint-Esprit a placée et qui cherche à émerger et à nous envahir. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à son Saint-Esprit, c'est grâce à la vie nouvelle qu'il nous a donnée que nous pouvons marcher selon ce que Paul explique ici. Au verset 9 et 10, l'apôtre Paul ajoute un dernier élément, une dernière chose à rejeter. Il dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. » Le mensonge est une partie de la nature terrestre que nous devons mettre à mort. Mentir est incompatible avec la nouvelle créature que nous sommes. Le mensonge est la caractéristique du diable. La vérité est la caractéristique de Dieu. Quand nous mentons, nous imitons qui? Nous imitons Satan. Voulons-nous ressembler au diable? Non, non. C'est un autre appel que Dieu nous adresse, puisqu'il parle ici d'être renouvelé selon l'image de celui qui l'a créé. Vous avez dépouillé ce qui appartenait à votre nature terrestre. Vous avez revêtu la nouvelle nature qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. La régénération renouvelle, restaure en l'homme l'image originale de Dieu qui a été abîmée lors de la chute. L'image n'a pas été détruite, elle a été abîmée, elle a été affectée par le péché. Mais le Seigneur Dieu, par la régénération que nous procure le Fils de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien, il renouvelle en nous l'image de Dieu en nous appelant à nous dépouiller de notre vieille nature. Paul écrit en Romains 8, 13 que nous faisons mourir notre vieille nature par l'Esprit. Nous la faisons mourir. Notez bien les mots de Paul au verset 10. « Qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance. » Par nature, nous sommes dans l'ignorance totale de qui est Dieu et de c'est quoi la volonté de Dieu. L'ignorance totale. Mais par la nouvelle nature, le Saint-Esprit vient allumer en nous, dans nos âmes, la lumière de la vérité de Dieu. Et nous fait passer dans une transformation, une connaissance, pas une connaissance théorique et intellectuelle, mais une connaissance pratique, concrète, tangible, transformatrice, où c'est tous les aspects de nos êtres qui sont renouvelés à la ressemblance de notre Dieu. Le but de la régénération, c'est que nous soyons semblables à Dieu, que sa gloire reluise de plus en plus en nous. Et c'est à ça que Dieu travaille. Dans son amour et dans sa grâce, il accomplit dans la vie de ses enfants une œuvre colossale et unique. Cette glorieuse transformation à l'image de Jésus-Christ ne reconnaît aucune frontière sociale, raciale, religieuse, culturelle ou autre. Et c'est de ça dont Paul parle au verset 11 que je relis maintenant. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. Les barrières élevées pour toutes sortes de raisons tombent et le lien commun, intime, vital qui nous unit est le Christ Jésus. Si vous snobez un chrétien, vous snobez le Christ Jésus. Si vous méprisez un frère ou une sœur dans la foi, vous méprisez en quelque part le Christ Jésus. Si vous entretenez des antipathies envers un frère ou une sœur dans la foi, vous êtes en train d'agir en ennemi de Jésus-Christ. Regardez ici ces classes ou ces différences dont Paul parle. Il y avait des conflits entre les Grecs et les Juifs, bien sûr. Il y avait des tensions entre les circoncis et les incirconcis. Nous en avions parlé dans notre étude du chapitre 2. Il parle des barbares et des scythes. Les scythes étaient les plus barbares parmi les plus barbares. C'était un peuple qui faisait peur. Il passait pour le peuple le plus arriéré, sauvage de l'humanité, presque au niveau des bêtes. Mais l'Évangile a la puissance de ramener les hommes les plus dégradés à leur plus sublime destination. Et que dire des tensions qu'il y avait, évidemment, entre les esclaves et les gens libres? Bien sûr, il y avait toutes sortes de tensions, de difficultés, mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ comble tous les fossés. Jésus-Christ est le sauveur, tout suffisant pour sauver qui que ce soit et pour unir ses enfants bien-aimés dans l'amour, peu importe l'arrière-plan de la personne. C'est le thème de tout l'Épître, finalement, on s'en souvient, hein? Jésus-Christ, le seul et tout suffisant sauveur. Christ est tout. E-S-T. Christ est tout. Qu'il est tout. A-I-T. Qu'il est tout de nous. Qu'il est tout, qu'il reçoive tout. Notre cœur en entier. Un des futurs rois d'Angleterre, lorsqu'il était jeune, avant de devenir officiellement roi avait un tuteur qui prenait soin de lui, qui le préparait à devenir roi un jour lorsque son père allait mourir. Le tuteur disait souvent au futur roi, « Tu es roi, et les rois ne se conduisent pas comme ça. » Il n'était pas encore le roi en fonction, mais il devait se préparer à être en pratique ce qu'il était en principe, le futur roi. L'apôtre Paul nous parle d'une façon semblable. Il rappelle aux chrétiens qu'ils sont chrétiens, ils sont en Christ Jésus, morts et ressuscités avec lui. Ils doivent voir leur vie à la lumière de ce qu'ils sont et de ce qu'ils seront dans la gloire éternelle, à la lumière de l'éternité et à la lumière de notre héritage royal que nous avons reçu. En Jésus, Paul nous exhorte à vivre comme les rois que nous sommes. En conclusion, il nous faut saisir de plus en plus et continuellement que malgré sa présence en nous, le péché n'a plus le dessus sur nous. Le péché n'a plus le dessus sur nous. La différence est totale entre un homme régénéré qui lutte contre le péché et un homme non régénéré qui s'accommode du péché. Le fait que le péché vive en nous est une chose, vivre dans le péché est une autre chose. Il est de la plus haute importance que chacun de nous, nous sachions que le péché ne domine plus sur nous, que les forces de la grâce rédemptrice, régénératrice et sanctifiante, ces forces-là œuvrent en nous, puissamment, au cœur de notre cœur, dans ce qu'il y a de plus central, moral et spirituel en nous. Il faut garder à l'esprit que nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit et que le Christ Jésus est en train d'être formé en nous. Nous devons considérer que nous sommes morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le tome 1, c'est fini. Nous sommes dans le tome 2. Pas question de vouloir revenir au tome 1. Amen.